Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Galade 100.9, votre émission favorite de chaque jeudi et samedi qui suit. Poker Menteur.
Le troisième du mois.
Troisième du mois, exactement, Patrick.
Bonsoir. Bonjour,
bonsoir, Patrick. Alors, de quoi nous parler ce soir ? Vous avez reconnu Beethoven, l'Ode à la joie. Donc, nous allons parler de l'Union européenne, ou plutôt de ce qu'a fait une union en Europe à travers le temps. Et surtout, on va parler de la période, évidemment, récente. Hein. Alors, pour cela, nous avons ce soir un invité. Jean-Philippe.
Bonjour Jean-Philippe.
Et bonjour Patrick.
Avant sa présentation, je vais donc lancer un petit qui suis-je. Qui suis-je ? Je suis un père fondateur français de l'Union européenne et j'ai participé à la planification d'après-guerre. Qui suis-je ? Jean-Philippe part. Jean-Philippe. Je te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Jean-Philippe Dazin, je suis retraité de l'éducation nationale. J'étais professeur d'allemand. Je m'intéresse et je me suis toujours intéressé à la chose politique, et à la littérature et à la philosophie. Voilà, en bref.
Voilà les bonnes choses. Alors justement, je pense que l'Union européenne, ça doit te parler un petit peu.
Un peu.
Le couple franco-allemand, tu dois nécessairement être sensibilisé à cette thématique.
Oui, il a été très florissant et il bat de l'aile.
Ah bon, bah on aura l'occasion d'en parler alors.
Alors si on commence par une approche, si je me permets, un petit peu historique de tout ça, on pourrait remonter dans le temps, il y a quelques siècles, on ne va pas rentrer dans les détails évidemment, mais cette idée de union de l'Europe, du continent européen pourrait remonter. On pourrait le situer, par exemple, déjà à l'Empire carolingien. L'Empire carolingien est une forme d'union d'Europe face, alors à l'époque, à la menace, entre guillemets, de l'invasion des musulmans. Hein. Nous sommes, rappelons, Charlemagne, l'Empire de Charlemagne.
C'est à peu près les quelles années, entre guillemets?
Eh bien là, on est entre le 8e et le 9e siècle. Hein, donc, okay. N'oublions pas que le grand-père de Charlemagne s'appelait donc Charles Martel. Donc, il y a donc cette idée de protection religieuse vis-à-vis d'une invasion éventuelle. Donc, cette notion d'Europe peut naître à ce moment-là. On en reparlera après, d'ailleurs, notamment par rapport aux symboles de l'Union européenne et aux couleurs utilisées.
D'accord.
Notamment par rapport à la chrétienté. Je pensais notamment à ça. C'est pour ça que je parlais donc de l'Empire carolingien. On pourrait parler aussi, si on avance très rapidement dans le temps, du Saint-Empire romain germanique. Mm-hmm. Justement, nous avons aussi un professeur d'allemand. Il pourrait nous en parler, mais ce n'est pas le but non plus.
Ouais.
Et là, on avance très rapidement dans le temps. On arrive au 19e siècle, où il y a, pour la première fois, une vraie idée européenne va naître, mais tout d'abord à travers les armes. Et moi, je pense que la première Europe qui a existé, mais de façon violente et guerrière, évidemment, c'est l'Europe napoléonienne.
Hein,
Napoléon veut envahir une grande partie de l'Europe de l'Ouest et s'attaquer à la Russie. On verra qu'il y a un autre personnage qui fera exactement la même chose, quelques décennies, un siècle plus tard.
Du côté allemand, cette fois-ci.
Du côté allemand. Donc il y a cette volonté d'étendre en faisant la guerre. Donc c'est la notion d'empire. D'Empire français.
Ouais, c'est l'Europe vue sous une bannière qui va la rassembler et la dominer, hein, d'accord ? C'est une idée
d'hégémonie. C'est une idée, alors, hégémonique, de domination, on va dire, idéologique aussi, hein,
ouais,
on peut
sûr.
Quand même le dire, culturelle. Mmh. Alors, évidemment, il y a Victor Hugo qui va en parler aussi avec ces fameux États-Unis d'Europe.
Alors, sur un point de vue complètement différent, cette fois-ci. L'Europe de la paix, l'Europe où on cesse de faire la guerre.
Oui, sauf que je dirais quand même avec une volonté d'avoir une langue française extrêmement dominante. Parce qu'il faut quand même rappeler que Victor Hugo est avant tout, je dirais, le leader de la littérature française, quand même, au 19e siècle.
Ouais.
Hein. C'est quand même un des personnages un des personnages principaux de notre histoire durant cette période. Mm-hmm. Et si on avance dans le temps, donc on arrive au XXe siècle. Alors l'Europe se déchire.
Oui. C'est moins qu'on puisse dire.
On ne va pas revenir sur les émissions donc, réalisées sur la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. On ne va pas revenir dessus. Hein. C'est un suicide. Mm-hmm. Un suicide qui va permettre aux États-Unis d'avoir le leadership mondial.
Ouais. Qui va accélérer la transition entre la domination européenne, le reflux de la domination européenne et la domination américaine.
Absolument. Et il y a ensuite, dans l'entre-deux-guerres, par rapport aux atrocités commises, une avancée du pacifisme en général en Europe. On en avait parlé aussi d'ailleurs. Et notamment en France.
Ouais, et dû au traumatisme de la Première Guerre mondiale. Hein,
absolument.
Le pacifisme est issu de ça quand même. Hein.
Avec la création de la SDN notamment, Société ouais. des Nations, qui est un peu l'ancêtre, si je puis dire, de l'Organisation des Nations Unies, mais avec beaucoup de défauts.
Ouais.
Parce que la SDN ne va pas empêcher l'arrivée des totalitarismes en Europe.
Ça va être un grand échec, la Société des Nations.
Ouais. Et rappelons-le aussi en Europe de l'Est, et je pense notamment à la Russie soviétique.
Ouais.
Et au stalinisme. Bon. Donc c'est vraiment des parenthèses. On pourrait citer des personnages comme Briand, hein, Strisman, etc., ouais. qui ont vraiment ne voulaient pas retomber dans ces atrocités de la Première Guerre mondiale. Mais mm-hmm. malheureusement, il y en aura une deuxième qui sera ouais. encore plus atroce en termes de victimes, en termes de destruction. Et encore une fois, le continent le plus touché,
ouais.
c'est toujours le continent européen. Mm-hmm. Et justement, il y a toujours, ça on peut revenir aux émissions précédentes, toujours cet antagonisme, et ça on va en reparler, entre la France et l'Allemagne.
Oui, bien sûr.
Et je pense que pour moi, le ciment, et là tout à l'heure je reprendrai notamment une phrase du général de Gaulle, le ciment de l'Europe, c'est quand même ce rapprochement.
Oui, c'est ça, c'est arrêter cet antagonisme terrible qui a donné deux guerres mondiales et une autre qui précédait en 1870, qui n'était pas piqué d'un temps également. Arrêtez ça, cet enchaînement infernal.
Arrêtons ceci. Alors, je vais accélérer un peu les choses aussi. On arrive dans les années 43, donc 43, 42, 43, on sent que l'Allemagne nazie va s'effondrer. D'ailleurs, le projet nazi était aussi une forme d'Europe,
ouais.
sur le modèle un peu, entre guillemets, napoléonien.
Oui.
Mais encore plus brutal, encore plus terrible. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir des années 43-44? Il y a l'arrivée des États-Unis dans le conflit en 41. Et il y a une conférence dont j'aimerais parler rapidement, c'est la conférence de Téhéran, en 1943, où pour la première fois, les trois grands se réunissent. Donc, c'est-à-dire Roosevelt, Staline et Churchill.
D'accord.
Avant Yalta, qui est beaucoup plus connu.
Et qui est plus tardif.
Et plus tardif, mais peu de temps après, en novembre-décembre 43, donc Yalta, c'est un peu plus de un an et quelques mois plus tard. Mmh. C'est février 45, Yalta.
Ouais.
Et le débarquement en Normandie est prévu, mmh. avec, dans le débarquement en Normandie, beaucoup de choses, et notamment ce qu'on appelait l'AMGU, l'AMGOT, qui veut dire Allied Military Government Occupied Territory, c'est-à-dire qu'en gros, les Américains,
anglais, hein.
n'est-ce pas, les Américains arrivaient sur le territoire français avec la volonté d'une organisation non seulement militaire, mais civile de la France, avec notamment l'arrivée de billets français, francs, hein, édités aux États-Unis. Alors évidemment, il y en a un, et ça on en parlera, qui va tout de suite s'y opposer.
Oui,
c'est le général de Gaulle.
Sans doute qu'il n'a pas trop apprécié cette idée-là. Hein.
Le général de Gaulle s'y oppose. Et donc de Gaulle sera toujours très très méfiant vis-à-vis, on va dire, de la mainmise anglo-saxonne sur l'Europe et le rapprochement, notamment franco-allemand, dont on va reparler plus tard avec le traité de l'Élysée de 63, qui, à mon avis, là, est fondamental. On en reparlera plus tard. Alors, si je laisse un peu maintenant la parole à Jean-Philippe au niveau philosophique, quelle approche pourrait-on en faire? Donc, j'ai fait ici une approche à peu près historique, avant de parler vraiment des instances, des institutions actuelles.
Ouais, après la Deuxième Guerre mondiale.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau philosophique, Jean-Philippe?
Alors, je vais avoir une approche un petit peu détournée en commençant par le rôle d'un bloc qui serait cette Europe face à la mondialisation. Je commence en fait par ça pour arriver à autre chose. Il est évident qu'on a des réponses différentes à ce combat contre la mondialisation, combat différent des États membres du fait de leur histoire, et tu en as parlé, du fait de leur histoire politique particulièrement, et du fait de leur situation économique actuelle. Donc on a le choix entre une voie nationale et une stratégie commune, ou tout du moins une stratégie qui serait concertée. Je vais arriver à la philosophie. Et c'est là où se pose, en fait, le problème de la solidarité. Est-ce que cette création de l'Europe, elle est faite sur la solidarité et, pour aller un petit peu plus loin, peut-être sur la notion d'humanisme? Oui, non, on y répondra peut-être. Depuis Maastricht, les Européens ont constaté un déficit total de démocratique et un déficit civique.
Ouais.
Et pourtant, quand on regarde les institutions, et Patrick en parlera tout à l'heure, on a une élection au suffrage universel des députés, on a un renforcement des pouvoirs du Parlement, on a une transparence du Conseil, enfin une transparence.
Une certaine transparence.
Une certaine transparence, on va être bien. Pour les citoyens, il y a ce déplacement de l'onction par les urnes du suffrage universel vers une démarche de participation directe. Et on a vu ce mouvement de demande de participation directe dans le mouvement des Gilets jaunes en France.
D'accord.
Et on a le même phénomène au niveau européen.
D'accord.
Donc, on sent que les citoyens européens ont besoin de cette participation directe. Or,
l'Europe est trop loin pour eux.
L'Europe est trop loin. C'est un ordinateur distant.
C'est distant.
Alors,
c'est distant.
Une petite question. Est-ce qu'on peut parler de citoyenneté européenne?
Ah, voilà.
Alors, parce que ça, c'est déjà une expression qui m'interpelle.
Alors, je vais venir après entre les nuances entre les citoyens, entre la nation. Et je vais y venir. Je vais y
très
venir.
Bien.
Alors, il faut tenir compte dans tout ça de tous les intérêts, des intérêts de tous les pays. Bah, avec l'élargissement de l'Union européenne, la diversité des points de vue. Ça, c'est important. Des tendances politiques. Les élections nationales ont lieu. Des langues. On a entendu le bon accent de Franck tout à l'heure.
Admirable.
Des sources d'informations qui sont totalement différentes. Et surtout de l'évolution politique. Quand on voit l'évolution politique de la Hongrie, de la Pologne et de l'Italie, on n'est plus dans la même optique. Et il faut un réajustement.
Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer justement que ces pays-là soient dans cette situation-là? C'est ça. Quelle est l'origine?
On y viendra peut-être tout à l'heure éventuellement. Oui. On va laisser nous présenter son approche. Et puis après, dans la deuxième partie, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus.
Alors, on considère un petit peu l'Europe comme un bloc et on attendrait un petit peu une homogénéité des décisions. Or, et paradoxalement, c'est de la diversité qui est un principe fondateur de la philosophie politique. C'est de la diversité que naît le consensus. Il n'y a pas de consensus en philosophie politique sans désaccord initial. Et toute expérience politique démocratique consiste à faire émerger un bien commun. Et on verra dans les solutions, dans la deuxième partie de l'émission, les solutions font appel à une notion de bien commun européen.
D'accord.
Bien commun de la diversité qui naît de la diversité des intérêts particuliers.
D'accord.
Donc, il faut la création d'une philosophie publique commune, je suis au niveau de la philosophie, pour faire face à la mondialisation, à la politique de Donald Trump, à l'hégémonie de la Chine. Bien.
Okay.
On n'oubliera pas, et Franck l'a souligné, que l'Europe s'est fondée, a été créée sur un fond de guerre froide.
Bien sûr.
Aussi, oui.
Or, on se trouve maintenant à peu près dans la même situation. C'est aussi une guerre froide. C'est une guerre économique froide.
D'accord. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Ouais.
Voilà.
C'est une guerre, en fait, un peu, je dirais pas cachée, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne médiatise pas. Il
n'y
a pas des morts directement, etc. Voilà. Mais il y a un impact considérable sur les populations.
Énorme.
Oui.
Et ça se sentait également au moment de la création de l'Europe.
Bien. D'accord.
Je rappelle la devise de l'Europe. C'est « unis dans la diversité
».
Donc, ça reprend un petit peu. Unis pourquoi? Eh bien, au départ, unis pour la paix et la prospérité.
Déjà, le point de départ, c'est ça. Hein.
Dans la déclaration liminaire de l'Europe, on parle de la paix, on parle de la prospérité. Il faut voir ce qu'il y avait sous ces mots également. Alors, le problème, Franck, tu me posais la question sur les citoyens. Y a-t-il une citoyenneté européenne? Justement, le problème, c'est... En Europe, l'Europe a été fondée sur des différences. Sur les différences entre quoi et quoi? Entre citoyenneté et nationalité. Alors, ce n'est pas la même chose. Et il faudrait, pour la résolution de cet antagonisme, un petit antagonisme, arriver à une idée de citoyenneté post-nationale.
Ok.
C'est, on est dans l'utopie. On est,
bon, oui. Alors, là, on est dans la supranationalité.
On est dans l'utopie. Bien. Entre peuple et nation. Alors, il faut. C'est l'idée d'un peuple plurinational, d'un peuple européen.
C'est ce que vous dites, Jean Monnet.
C'est ce que dit Jean
c'est
Monnet.
C'est un peu l'ambition, ouais, voilà, c'est l'ambition. Voilà. Citoyenneté post-nationale.
Ensuite, les souverainetés négatives des pays. Une souveraineté négative d'un pays, c'est la faculté de ne pas être contraint par force. Ça s'appelle souveraineté négative de chaque pays. Et la souveraineté positive de l'Union. Négatif, positif. Mmh. Et ça serait une idée de co-souveraineté. D'accord. Et enfin, non pas enfin, droit international et droit transnational, c'est ce qu'on appelle le cosmopolitisme. La souveraineté des États membres et l'autorité des instances de l'Union. Et ça se trouve déjà, alors je vais remonter à la philosophie des Lumières, et puis comme je suis germaniste, je vais vous sortir Emmanuel Kant, qui a écrit en 1795 un petit bouquin qui s'appelle « Vers la paix perpétuelle », où il...
À peu près à la même époque que la Révolution française.
Enfin, oui, en plein, alors d'ailleurs il était très, très intéressé, le sage de Königsberg, restait toujours à Königsberg, il a dépassé deux fois l'arbre vers lequel il allait quand il faisait sa promenade, c'était pour aller chercher le contrat social de Rousseau et pour prendre des nouvelles de la Révolution française.
D'accord, ok. Donc ça l'intéressait.
Alors, il y voit, lui, il voit trois niveaux de relations du droit public. Le droit civique, qui est le droit du citoyen, première couche. Le droit des, ce qu'on appelle le droit des gens, et en fait, c'est le...
D'accord.
Ensuite, le droit cosmopolitique, c'est le citoyen du monde. Alors, on n'est pas au niveau européen. Lui, il voit encore plus haut. Et il essaye de faire coexister ces trois droits.
Ces trois niveaux, en quelque sorte.
Ces trois niveaux. Le citoyen dans son pays, le citoyen dans le monde.
Dans le monde, d'accord.
Bien. Mmh. Alors,
mais est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, pas une nationalité mondiale? Ça paraît un peu surprenant.
Oui, oui.
J'ai du mal à voir citoyenneté sans nationalité, personnellement. J'ai du mal.
Oui,
c'est un point de vue personnel.
Oui, il voudrait faire coexister ces trois niveaux. Hein. Alors, parce qu'il y voit les droits fondamentaux des gens, le droit commun également, le droit commun, et tout en respectant des valeurs. Alors, des valeurs d'intégrité, de participation, c'est important, la démocratie, hein, de solidarité, on y est également, et de personnalité, sont les droits moraux et les droits culturels.
D'accord.
Donc, on pourrait fonder cette chose-là pour arriver à une harmonie. Or, on trouve également, dans le début des fondations de l'Europe, cette notion d'harmonie démocratique, d'harmonie économique. Mais là, ça se discute. Et il faudrait réaliser le droit public de l'humanité en vue d'une paix perpétuelle.
D'accord.
Et c'est la conclusion de Kant.
Donc le projet européen pour toi serait une traduction concrète de cette espérance de Kant, d'accord, d'arriver à harmoniser ces trois niveaux. Le niveau du citoyen lambda sur son territoire, du citoyen membre d'un peuple, d'une nation, et du citoyen du monde. Simplement, là, on va remplacer le monde par l'Europe. On commence le projet.
Voilà.
Oui, donc ce serait une vision effectivement philosophique ambitieuse de l'Union européenne et qui correspondrait un petit peu à son projet de départ. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être faire une première pause, Franck.
Première pause musicale.
Musicale.
Alors, justement, dans ce thème, Alain Souchon, vous êtes lent.
Come para bien. Vous êtes lent, lent, lent dans vos vieilles godasses. Il serait temps, temps, temps que l'Europe se fasse. Elles sont cuites, 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 vos vieilles chaussures. Allez, quick, 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 l'Europe est mûre.
D'entendre Alain Souchon, vous êtes lent. Vous êtes bien dans l'émission Poker Menteur Calade 100.9 avec Jean-Philippe comme invité sur l'Union Européenne. Deuxième partie, la construction du projet européen, Patrick. Poker Menteur.
Poker Menteur.
Calade.
Oui, alors dans un premier temps, on va présenter rapidement les grandes étapes de la construction de l'Union européenne, d'accord, qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui. Alors ça commence au sortir de la guerre avec l'idée reprise d'Adam Smith entre autres, qui consiste à dire si on fait du business ensemble, on ne sera pas la guerre. Donc se crée une première institution qui est la communauté européenne du charbon et de l'acier. On va déjà mettre en commun la gestion du charbon et de l'acier entre quels pays ? La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. On ajoute un autre organisme sur le projet de développer une communauté atomique, hein, développer l'énergie atomique européenne. Et ça nous amène au traité de Rome de 1958. Ça nous amène aux années 60 avec le premier grand projet que prend à bras-le-corps l'Union européenne, c'est la politique agricole commune, rendre l'Europe autosuffisante, ce qui va être résolu assez rapidement. Ça va être un grand succès, mais la PAC va occuper un poids très lourd dans le budget européen pendant longtemps. Et puis, ça va être les élargissements successifs qui vont arriver et se succéder. Alors, le premier qui va arriver, c'est l'Angleterre.
Vers l'Europe du Nord, avec le Danemark aussi.
Et la France ne va pas trop apprécier. Hein. De Gaulle et l'Angleterre, ça faisait deux, donc il n'a pas trop apprécié. Mais le Royaume-Uni, soyons précis, va quand même entrer officiellement en 1973 dans la communauté économique européenne en compagnie de l'Irlande et du Danemark. Ensuite, se constituent des organismes qui aujourd'hui existent encore, le Conseil européen en 1974, qui va se réunir, donc qui réunit les dirigeants européens pour définir les grandes orientations politiques. Le Parlement européen apparaît en 1979, premières élections, taux de participation assez élevé, 60%. L'élargissement va continuer dans les années 80, la Grèce en 81, l'Espagne et le Portugal en 86, on accueille des pays qui sont sortis des dictatures militaires. Durant les années 80, on va avoir des chouettes rapports de force avec le Royaume-Uni et Madame Thatcher qui n'a qu'un mot à la bouche, « I want my money back », en gros, l'Union européenne me coûte trop cher, rendez-moi mon argent. Arrivé aux années 90, on passe à une relance du grand projet européen avec la mise en place d'un espace de libre circulation des personnes, ce sera l'espace Schengen, avec le projet de marché unique, avec l'acte unique en 86 qui va un peu poser les bases de ce marché unique. Petit à petit, dans les années 80 également, le Parlement européen voit peu à peu son rôle renforcé, d'accord. On généralise le vote à la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne, ce qui permet... Alors, il y aura toujours, attention, des décisions qui devront être prises à l'unanimité, et ça va être un point de blocage terrible, mais quand même, il y a des améliorations. Et puis, fin des années 80, l'histoire s'accélère soudain, c'est-à-dire que le mur de Berlin chute, l'Union soviétique disparaît, et l'Allemagne se reconstitue, la grande Allemagne, d'accord, et ce qui était la grande angoisse des politiques de l'après-guerre. 92, le traité de Maastricht pose les bases du projet de constitution d'une monnaie unique qui va arriver à la fin des années 90, début des années 2000, l'euro, hein, d'accord. Tout un tas de traités vont se succéder dans les années 90. Et au début des années 2000, l'euro est mis en place et il y a un élargissement majeur à 10 pays d'Europe de l'Est d'un coup en 2004, plus 2 en 2007, plus 1 supplémentaire en 2013. Donc ça fait un changement très très profond de philosophie de ce qu'est l'Union européenne. On ne parle plus de communauté économique européenne, mais d'Union européenne depuis la fin des années 80. On entre dans un nouveau monde, hein, d'accord, une Union européenne très élargie, dont un noyau central de 12 États et ensuite un peu plus qui vont adopter l'euro comme monnaie commune. D'accord. Et on arrive dans les années 2000 à ce grand projet établir une constitution pour l'Europe. Et ça va être le grand combat de l'année 2005, avec un référendum qui verra en France le refus par les Français de ce projet de traité pour établir une constitution européenne. Pour autant, et là, on voit un moment assez emblématique, ce qui ne passe pas par la porte repasse par la fenêtre, et ce sera le traité de Lisbonne en 2009, d'accord ? Et je dirais, pour le reste, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, au jour d'aujourd'hui, que sont les grandes institutions de l'Union européenne ? Eh bien, vous avez d'un côté le Conseil européen, qui rassemble les 28 chefs d'État, qui définissent les grandes orientations, donnent les impulsions et donne mandat à la Commission européenne, 28 commissaires européens, de les mettre en œuvre et de proposer des lois. Ces lois sont ensuite votées au Parlement européen. À côté, il y a aussi un autre conseil, qui est le Conseil de l'Union européenne, qui réunit des ministres européens selon les thématiques qu'il faut étudier. Et donc, il y a modification, adoption, rejet de propositions, autant par le Parlement que par le Conseil de l'Union européenne. Voilà un petit peu où on en est au jour d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire sur les étapes et les instances de l'Union européenne. Alors, si vous le voulez bien, maintenant qu'on a posé un petit peu ses bases pour savoir de quoi on parle, on va rentrer dans une discussion franche et virile, peut-être, si on n'est pas d'accord, qu'en est-il aujourd'hui de l'Union européenne ? Analyse un peu critique, éventuellement.
Mais j'aimerais faire un petit retour là, sur ce que tu viens de dire, très justement. Il faut quand même parler un petit peu du traité de Maastricht de 1992.
Oui.
Où là aussi, ce traité a été soumis donc, au référendum des Français. Et à l'époque, c'était donc François Mitterrand qui était donc président de la République. Ouais. Et il y avait là aussi, à l'époque, une forte opposition, très nette, avec un mélange d'ailleurs d'hommes politiques de droite ou de gauche qui étaient pour ou contre.
Tout à fait. C'est le premier moment où on voit des clivages transversaux.
Absolument.
Clivage droite-gauche.
Absolument. Et je dirais que c'est même, pour moi, l'un des éléments fondateurs de la fin du clivage gauche-droite classique en France. Et c'est pour ça qu'il aurait peut-être fallu un petit peu accentuer là-dessus. Ce traité de Maastricht est approuvé, mais d'extrême justesse, avec, ouais, je crois, ça devait être 50,4% de oui, ouais, contre 49,6% de non. Et il y avait vraiment un vote très différent en fonction des régions françaises, ouais, et des départements français. Et c'était encore beaucoup plus vrai pour le traité constitutionnel de 2005, où je me rappelle du résultat, j'ai encore des résultats en tête, parce que comme Jean-Philippe l'a dit, je viens du Nord-Pas-de-Calais, mm-hmm, et ça j'en ai déjà longuement parlé dans les émissions, et à l'époque le Pas-de-Calais avait voté donc non à ce traité constitutionnel, je crois à 70%,
wow,
et Paris avait voté oui à 77 ou 80%.
Ah ouais, donc d'énormes clivages géographiques.
Gigantesques. Et là, à l'époque, donc le non l'avait importé avec 54,5 ou 55% dans ces eaux-là.
Alors, une fois que tu as lancé qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta vision un petit peu, justement, critique de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui ?
Encore une fois, c'est une vision un peu historique. Je pense que la première chose qu'on doit retenir de l'Union européenne, c'est le rapprochement franco-allemand.
D'accord.
Et justement, on aura l'occasion après d'en reparler sur l'évolution du rapprochement franco-allemand depuis quelques années. Moi, je pense au traité de 1963, Le traité de l'Élysée, où à l'époque, vous aviez donc le général de Gaulle qui était président de la République française, et Konrad Adenauer qui était donc chancelier de la République fédérale allemande. Et donc de Gaulle, donc arrivé au pouvoir en 58, il est arrivé au pouvoir d'ailleurs après la naissance de la CEE. Il a toujours d'ailleurs vivement critiqué le rapprochement, on va dire la création d'une Europe supranationale. Il a toujours été absolument contre ce genre de choses. D'ailleurs, il critiquait assez ouvertement Jean Monnet là-dessus. Et donc pour revenir au traité de l'Élysée, je pense que de Gaulle voulait, et il avait compris, parce qu'il avait participé aux deux conflits, hein, il avait été un acteur majeur évidemment du second conflit mondial, et il avait compris que l'Union européenne devait se faire avec ce rapprochement fort, très très fort, entre la France et l'Allemagne, qui pour lui étaient les deux grandes puissances de l'Europe. Alors justement, je vais quand même vous dire une phrase. Donc ça, c'est De Gaulle qui dit « L'Europe », alors ça c'est une allusion gastronomique un petit peu, « L'Europe, c'est la France et l'Allemagne, le reste, c'est les légumes ». Voilà ce que disait De Gaulle sur le rapprochement franco-allemand. Et ça ne s'est pas fait réellement. Pourquoi ? Quand il y a eu le vote au Bundestag, donc c'était quelques mois plus tard, il y a eu un préambule qui a été rajouté et qui précise que le rapprochement franco-allemand passera toujours après la liaison entre la France et les États-Unis.
D'accord.
Et donc ça, De Gaulle a très vite compris que les États-Unis ne voulaient pas d'un rapprochement allemand franco-allemand trop fort, parce que qu'un rapprochement franco-allemand très fort aurait peut-être à long terme menacé, pourquoi pas, la puissance des États-Unis.
On pourrait dire que le tropisme, atlantiste des Allemands empêchait ce
absolument.
Projet de lien.
Absolument. Il faut quand même rappeler qu'après la guerre, l'Allemagne a été dénazifiée et, je dirais, américanisée.
Ok, Jean-Philippe, si tu veux nous donner ton avis.
Oui, moi je voulais dire que De Gaulle savait très bien que ça ne se ferait pas très facilement, même avec le traité de l'Élysée, qui est plus un traité sur les rapprochements culturels et, par exemple, il faut apprendre la langue du voisin. Ça, c'était un point fort. Pour une autre citation du général De Gaulle, il ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en criant. L'Europe. Voilà. Il savait très bien que ce serait compliqué. Et c'est vrai que il voyait l'Europe autour de ce pivot franco-allemand. Et on y est resté quand même longtemps.
Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Parce que là, on est dans le passé. Il faudrait quand même qu'on parle un peu de l'Europe aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et qu'est-ce que toi, tu as apporté, Jean-Philippe, comme analyse plus ou moins critique sur l'Union européenne aujourd'hui ?
Eh bien, on voit maintenant, comme j'en parlais tout à l'heure, de ce désintérêt, quoique on a eu une participation aux élections européennes.
En légère augmentation.
En légère augmentation. Bon, c'est pas non plus...
C'est pas le venir banane non plus.
En gros, 50%.
Oui, en gros. Bon. Donc, les gens sont désintéressés, premièrement, de leur politique nationale et, a fortiori, d'une politique que j'appellerais transnationale, qui les intéresse peu.
Qui est perçue comme lointaine, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Oui, j'ai dit que c'était un ordinateur distant. Voilà. Et il considère ça comme étant, c'est vrai, un déficit démocratique, un déficit civique. Voilà. Et bon, arriver maintenant à intéresser les citoyens européens, donc Franck voulait parler de cette notion de citoyenneté européenne, les citoyens européens à cette chose politique européenne, ça n'est pas facile. Quant à l'axe franco-allemand, on voit là les tentatives d'Emmanuel Macron d'avoir la main mise sur les institutions européennes en favorisant tel ou tel candidat.
Oui, mais enfin ça, c'est la cuisine. Ils le font de tout temps. Je ne suis pas sûr qu'il va y arriver pour eux.
Mais il se trouve en conflit avec l'Allemagne.
Oui, bien entendu.
Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Il y avait une entente.
Tu penses qu'il y a plus de tensions sous Macron ?
J'ai l'impression.
D'accord.
J'ai l'impression. Okay. Le couple franco-allemand, quand on regarde les chanceliers et les présidents français, marchait bien. Il y avait des petits accros, mais normalement, ça marchait. Là, Macron-Merkel...
D'accord.
C'est pas terrible.
Si vous voulez bien, moi, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice. Moi, ma vision, elle va être plus économique, éventuellement.
Enfin,
ça
ne vous
étonnera pas.
On ne s'étonne pas.
C'est un peu plus mon domaine de spécialité, on va dire. Je dirais que l'Union européenne a changé fondamentalement à partir de la fin des années 80 et est passée à une deuxième étape de sa construction et une construction qui est teintée très fortement d'un projet libéral, d'accord, sur le plan économique. C'est-à-dire que là, la vision gaullienne d'une Europe des nations a disparu derrière l'Europe libérale, à l'anglo-saxonne, en quelque sorte. Et elle s'est construite traité après traité dans cette logique-là, avec la mise en place de règles de plus en plus contraignantes, sur lesquelles il n'y a pas moyen de revenir en arrière, cf. Le traité 2005 et ce qu'il en est advenu. L'élargissement accéléré à l'Europe de l'Est, pour moi, entre totalement dans cette logique de, je dirais, intégrer la mondialisation libérale, voire néolibérale de Reagan, qui est en œuvre depuis les années 80, l'intégrer à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, à coup d'intensification de la concurrence, de délocalisation, etc. etc. Donc, multiplication aussi des projets de traités de libre-échange, influence discrète mais de plus en plus massive des multinationales, des lobbies des multinationales dans le champ de l'Union européenne. Pour moi, c'est un petit peu ça qui me paraît quelque chose d'assez fort, qui a profondément changé les choses, et surtout le déficit démocratique terrible, l'idée qui est transmise que c'est ça et pas autrement. Quand quand en Grèce, lors de la crise très grave grecque, le parti Syriza est arrivé au pouvoir avec un projet économique évidemment radicalement différent que le projet donc d'une austérité très violente qui leur était imposée. L'Union européenne, par la voix de quelques leaders politiques allemands, a répondu non, il n'en est pas question, même si les urnes ont donné un choix et ont dicté un chemin démocratique donc différent, enfin la démocratie a dicté un chemin différent, la réponse, ce sera non. Vous vous taisez, vous vous soumettez et vous appliquez ce qu'on vous dit, et c'est ce qui est arrivé.
Parce que l'Allemagne a horreur des déficits.
Oui, bien sûr.
Et donc, on se retrouve soumis, alors je vais employer un terme, au diktat allemand, sur cette stabilité financière, un budget équilibré. C'est ce que dit Piketty dans Changer l'Europe. Hein. C'est ouais. Priorité, exclusivité aux questions budgétaires, aux questions financières.
Ça, c'est le problème. C'est qu'on ne peut pas transformer les Français en Allemands ou inversement. Le problème. Et l'économie française ne marchera, n'a jamais fonctionné comme l'économie allemande, notamment sa monnaie. Et là, je pense à l'euro, où l'euro aussi est critiquable par rapport au fait que ça a avantagé beaucoup plus l'économie allemande que l'économie française, ne parlons pas de l'économie italienne et grecque.
On va faire une deuxième pause musicale. Nous allons passer quoi, donc, Franck, rappelle-moi.
Göttingen, Barbara.
De Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire. Il reste là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, là.
Vous écoutions Barbara Göttingen. Nous sommes sur Radio Calade, l'émission Poker Menteur, avec notre invité Jean-Philippe pour parler de l'Union européenne, du projet européen. Et donc, dans cette dernière partie, on va essayer de faire une petite prospective sur le futur. Alors, on pourrait dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'Union européenne est coincée entre des mouvements populistes extrêmement puissants, hein, qui montent en puissance dans toute l'Europe et qui freinent des cas de fer vis-à-vis du projet d'intégration européenne. On a en face le rêve de l'intégration de l'Europe fédérale, qui a du plomb dans l'aile, parce que l'acteur numéro un, qui est l'Allemagne, quand même, de l'Europe d'aujourd'hui, n'en veut pas, hein, de ce projet fédéral. L'Allemagne est très souverainiste. Et donc, on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises et on ne sait pas vers quoi aller. Alors, Franck, quelle vision tu as de ce projet européen ? Qu'est-ce que tu peux nous proposer ?
Alors, si je me place par rapport à la France, que je pense que dans l'Europe, il y a des projets à long terme qui peuvent varier en fonction de l'intérêt de chaque État. Et je pense que l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Allemagne, dans ce cas-là, n'est pas forcément convergent, ça peut être divergent. Et là, encore une fois, par rapport à la géographie, l'histoire et la culture, je pense que la France a intérêt à un rapprochement avec l'Afrique du Nord. Et ça, on a déjà parlé lors des...
Tu nous dis la France a l'intérêt.
La France a l'intérêt.
Ouais, mais et l'Union européenne, alors ?
Eh ben, j'ai des gros doutes. Je vois pas trop d'avenir. Je suis assez pessimiste là-dessus.
Donc toi, ta vision, c'est plutôt une alternative à l'Union européenne, avec
exactement.
Une France qui se recentrerait sur des rapports avec l'Afrique du Nord.
Parce que je vois l'Allemagne, par contre, et ça, c'est son intérêt, au niveau culturel, géographique, voire historique, de se rapprocher avec l'Europe centrale.
Ce qu'elle est en train de faire. Hein. Et dans le cadre fait. Européen, c'est ce qu'elle fait massivement.
Et c'est ce qu'elle fait massivement.
Elle a reconstitué
la
Grande Allemagne.
Mais ce n'est pas l'intérêt de la France. C'est pas l'intérêt de la France.
Oui, totalement.
Alors, dans les...
Jean-Philippe sera peut-être sur une voie différente. On va t'écouter.
Oui, alors moi, je suis sur une voie totalement différente, puisque je reprends un petit peu ce que dit Thomas Piketty dans ce petit opuscule qui s'appelle « Changer l'Europe, c'est possible ». C'est un manifeste pro-européen.
Alors... Thomas Piketty est un économiste français assez jeune, extrêmement brillant, qui a fait des travaux qui ont fait date dans le monde entier, notamment aux États-Unis, sur les inégalités, et qui a sorti un petit ouvrage où il présente des propositions pour sauver l'Europe, en quelque sorte. C'est ça dont tu vas nous parler.
Oui, c'est ça.
Vas-y, on t'écoute.
C'est un projet un peu utopique, hein, mais il a l'avantage d'exister. Il propose la constitution d'une assemblée européenne qui serait constituée de 80% de députés nationaux et de 20% de députés européens.
Alors là, évidemment, je vais te dire, mais il y a déjà un Parlement européen. À quoi ça sert, cette
voilà, histoire ? Voilà. Eh ben, il y aurait également des députés nationaux. C'est ça l'important. De plus, il ne serait constitué que par des États qui seraient volontaires pour participer à cette assemblée.
Alors, comment on les désigner, ces États, alors ? Comment on les désigner ?
La
base du volontariat. Alors, là, on va squeezer un petit peu cette règle de l'unanimité dont tu as parlé, Patrick.
Qui bloque notamment la fiscalité.
Il débloque ce verrou en disant, il n'y aura que les pays volontaires qui participeront.
Donc, ils vont créer un noyau central à l'intérieur de l'Union européenne, deux pays qui vont créer leur propre assemblée et qui vont faire quoi ?
Et qui vont essayer de lutter d'abord contre les inégalités, parce qu'on n'en a pas, trop parlé. Et ils vont lutter contre les inégalités. Ils vont rendre aux États le pouvoir de lever l'impôt sur le bénéfice des multinationales, par exemple. Tu parlais de l'hégémonie des multinationales et de leur rôle. Et ils pourront lever l'impôt sur le bénéfice.
Mais il n'y aura pas du lobbying derrière qui va faire pression
Certainement. Ensuite, il y aura un budget financé par des impôts communs. Et là encore, la question fiscale est importante en Europe. Or, il n'y a pas de politique fiscale commune.
Oui.
Et là,
le budget de l'Union européenne est ridicule.
Est ridicule.
Par rapport au projet de l'Union européenne, il est totalement ridicule.
Cet impôt viendrait financer des biens communs européens. J'en avais un petit peu parlé, le bien commun européen.
D'accord.
Et là, on revient un petit peu à Kant... Excusez-moi, j'y reviens. Ouais. À une communauté de destin de l'Europe. Franck n'y croit pas, mais communauté de destin de l'Europe, ça serait une communauté politique européenne, une vraie politique européenne. Voilà ce que propose Piketty, entre autres. Je peux revenir rapidement sur ce rapprochement avec les pays méditerranéens et l'Afrique.
Oui.
Dans la déclaration liminaire... dans le troisième paragraphe, il est dit qu'on parle également de l'Afrique, de la prospérité de l'Afrique qui attendent du vieux continent leur développement et leur prospérité.
Ouais. Ça sent bon, comment dire, le discours colonial,
c'est
le post-colonial,
ah, voilà,
cette histoire-là.
Voilà. Or,
bonjour la rédaction,
je suppose,
pas
je suppose que Franck n'est pas dans cette veine-là.
Non, je ne voulais pas un retour à l'AEF ou l'AOF. Non, mais dans le sens où nous avons quand même des rapports culturels, historiques et au-delà même géographiques avec l'Afrique du Nord qui est indéniable. Et à long terme, pour le bien de tout le monde, je dirais, un rapprochement avec l'Afrique du Nord serait beaucoup plus pertinent que ce qu'on a fait avec l'Europe de l'Est, pour moi. L'Allemagne a été avantagée là-dessus. Et je pense que ce qui a fait la force de Gaulle, et notamment de... Parce que je suis quand même très gaulliste dans l'âme, je ne vous le cache pas. C'est que c'est vrai qu'au départ, la CEE a été créée quand même favorablement pour la France, notamment avec la PAC, soyons honnêtes. Oui. Maintenant, l'agriculture française va quand même pas bien du tout.
Oui.
Et d'après les derniers chiffres, l'agriculture allemande se sort de mieux en mieux.
Ouais,
et devient la première agriculture d'Europe. Que faire ? Que fait-on maintenant avec les agriculteurs français par rapport à l'Union européenne ? Ou même,
si qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas, enfin bon, je ne vais pas dire, je m'en fous un peu de la politique agricole.
Oh non, c'est quand même fondamental.
Ouais, mais bon, alors, je suis désolé, c'était un enjeu fondamental dans les années 50-60, l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, non, je suis désolé, c'est pas un enjeu fondamental.
Bah, si, parce
sauf
que
si on l'articule sur la
qualité,
transition écologique.
Voilà, sur la qualité des produits.
Tous les enjeux écologiques.
Sur la qualité des produits, ouais. Et sur le fait que, est-ce qu'il est encore normal d'importer, comme je vois régulièrement sur les étals des supermarchés ou ailleurs, des pommes qui viennent du Chili, du Pérou, est-ce que l'Union européenne ne peut pas dire halte là, on arrête tout ça, si c'est pour le bien commun, qu'on arrête tout ça.
Bon, alors, dans la logique libre-échangiste libérale que j'ai décrite, la réponse est non, ils ne vont pas arrêter
voilà.
Bien
et
sûr.
Là, c'est un problème.
Mais quelque part, ce que j'ai cité va nous permettre de remettre en avant une nouvelle thématique qui devient aujourd'hui centrale, c'est la thématique de la transition écologique, transition énergétique. Et l'Europe s'est quand même pas mal saisie de cette thématique à travers ses plans structurels à 2020, même si dans la pratique, on peut estimer qu'elle ne va pas assez loin. En termes de discours par rapport aux autres pôles que sont
aussi
la Chine et les États-Unis, eh ben, on est très, très en avance sur cette prise de conscience-là. Après, donc, quelque part, si je vous entends, on a vraiment l'articulation entre deux choix possibles. Soit on ressort du projet européen, et c'est la position, enfin, c'est la logique de ce que nous expose Franck. Soit on essaie de trouver une solution face à cette impossibilité manifeste d'aller au rythme qu'on espérait vers l'Europe fédérale, et c'est créer un noyau dur de pays qui vont avancer par eux-mêmes et puis qui diront aux autres « libre à vous de nous rejoindre si vous le désirez ». On est un petit peu dans cette optique-là, avec aujourd'hui, il faut vraiment en avoir conscience, des nouvelles thématiques, dont l'écologie, qui sont des thématiques fondamentales. La transition écologique, elle est sur le dos du monde entier. Et quelque part, face à un Donald Trump qui a décidé que non, tout ça n'existe pas, faire du déni en quelque sorte, et face à une Chine qui a conscience de ça, mais qui quand même, vu son mode de développement accéléré, eh bien, accélère très fort dans les émissions de gaz à effet de serre, etc., l'Europe a peut-être vocation à montrer la voie, quelque part.
Est-ce que, justement, il n'y a pas un paradoxe dans ce plus d'Europe et le résultat des élections européennes qui mettent les Verts quand même à un niveau assez important.
Dans tous les pays, hein,
dans tous les
pas
pays,
qu'en France. Hein.
Et oui, pas en Italie.
C'est vrai. Dans un certain nombre de pays, dont
Italie.
L'Allemagne notamment.
Oui, mais pas en Italie. Pas du tout en Italie.
C'est vrai.
Où les Verts prônent une production de proximité, un commerce de proximité.
Oui.
C'est en totale contradiction avec une politique agricole commune.
Oui, oui, puis avec la logique libérale
en opposition
de l'Union européenne.
Voilà, avec le libre-échange.
Oui,
le libre-échange est totalement à l'opposé de tout ça.
C'est vrai.
Et le TAFTA, ou le rappelle-moi, Patrick, là, avec le Canada,
c'est le CETA
qui a été signé par. Je veux dire, c'est une aberration.
Oui. Oui.
C'est une aberration. Donc c'est là-dessus que les écologistes européens doivent faire quelque chose.
Bah, derrière tout ce qu'on a dit, il y a ce grand combat entre les tenants d'un développement fondé sur le libéralisme économique, donc celui qui est en œuvre depuis la fin des années 80, et puis cette nouvelle prise de conscience qui peut aller jusqu'à envisager de remettre en cause cette logique libérale. Mais attention, les Verts à la sauce allemande ne sont pas du tout aussi critiques que ça. Les Verts à la sauce allemande sont très libéraux. Ils n'hésitent pas à s'allier avec Mme Merkel, avec la droite libérale. Eux, ils ont une vision de l'écologie, et là on va donc comprendre que l'écologie et aussi traversée de courants très très divers, qui est beaucoup plus dans leur esprit compatible avec la logique libérale.
Oui, c'est-à-dire que les Verts, au départ, ont été traversés de courants, je parle de l'Allemagne, ont été traversés de courants entre les réalos, réalistes et les utopistes, et là, ce sont les réalistes qui ont gagné. Du point de vue politique, ce sont les réalistes qui ont gagné.
Et ils participent au pouvoir depuis très longtemps en Allemagne.
Et ils font des alliances, en effet, avec, avec la démocratie chrétienne de Mme Merkel, mais aussi avec la SPD qui est bien malade en ce moment.
Ouais,
mais voilà. Donc, ces politiques européennes sont toujours paradoxales et compliquées.
D'accord.
Ça n'est jamais simple.
Et si on revenait à la question des populismes, de la montée des populismes, avec l'exemple du Brexit, qu'est-ce qu'on peut en dire, Franck ?
Est-ce que pour toi, le Brexit, c'est une forme de populisme ?
Moi, ça ressort d'un mouvement global cohérent, que j'appelle les populismes, ou les souverainismes, un peu un mélange des deux.
C'est pas tout à fait la même chose.
Oui, bien sûr, mais il y a un peu de tout, avec des particularités spécifiques à l'Angleterre. Mais moi, ça reste cohérent quand même avec cette montée en puissance des populismes et des souverainismes.
Au niveau de la philosophie, je pense que l'Angleterre est à l'origine de la démocratie moderne. Pour moi, je ne sais pas si Jean-Philippe est d'accord avec moi. Notamment, je pense à l'Habeas Corpus, etc. Donc, je remonte au XVIIe siècle. Mais c'est quand même fondateur de beaucoup de choses. Et je dirais que l'Angleterre avait toujours un pied en Europe et un pied de l'autre côté de l'Atlantique.
Totalement. Je suis d'accord.
Et je pense que là, bon, ils vont
L'Angleterre
sortir.
L'Angleterre est une île. Hein. La mentalité insulaire, elle n'a jamais intégré vraiment le projet européen pour moi.
Pas dans l'euro, pas dans Schengen. C'est quand même un cap assez particulier, l'Angleterre.
On en avait déjà parlé avec Patrick. Oui. Il y a également le problème des flux migratoires.
Oui.
On n'en a pas parlé.
Qui a accéléré
la montée des populismes en France, en Hongrie, en Pologne, en Italie.
Totalement.
Et là, que peut faire l'Europe face à l'immigration
Que peut-elle faire de plus que ce qu'elle fait actuellement, franchement ?
Alors, bon, on a eu Mme Merkel qui a ouvert ses bras.
Elle s'est calmée.
Voilà. Parce qu'il y a aussi moins de
le flux aussi, ça a ralenti.
Ça a ralenti. Mmh. Mais que peut faire l'Europe ? Bon, c'est pas évident, parce qu'il faudrait une politique un petit peu harmonisée.
Oui.
Et revenir un petit peu aux fondamentaux. Ma première partie, cette Europe fondée sur l'humanisme, la solidarité, qui sont quand même des valeurs qu'on peut prôner.
Oui, mais quand on sait que quand il s'est agi de se réunir pour se répartir la masse des migrants, ça a été un échec total.
Oui.
Et ça a été chacun se débrouille.
Voilà.
D'où l'arrivée au pouvoir de Salvini en Italie. Mais Salvini, il a beau être cohérent avec Viktor Orban, le patron de la Hongrie. Viktor Orban, il ne veut pas entendre parler de cette répartition. Alors que Salvini, oui, il la veut, cette répartition. Il ne veut pas garder tout le monde sur le dos. Donc, là, c'est, je dirais, un symptôme vraiment d'un blocage de l'Union européenne qui n'arrive pas à avancer sur des sujets clés et à se mettre d'accord parce que l'unanimité à 28, c'est compliqué. Voilà. Franck, qu'est-ce qu'on arrive au terme de l'émission ?
Une petite conclusion, je dirais que pour moi, on va dire qu'il y a trois pouvoirs. Alors, je ne sais pas si Jean-Philippe va être d'accord avec moi, c'est personnel. Là, il y a le pouvoir théorique, national qui, pour moi, a quasiment disparu. Le pouvoir réel, c'est l'Union européenne. Mais rien ne vaut le pouvoir spirituel. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je ne peux qu'être d'accord.
Okay. Le qui suis-je ? Revenons un petit peu au qui suis-je. Le qui suis-je ?
Alors c'était qui ça ? Enfin, si tu peux nous rappeler, tu nous
Alors,
avais dit.
Je suis un père fondateur français de l'Union européenne.
Oui.
Et j'ai participé à la planification donc de la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. Je suis
Jean Monnet.
Bravo. Très bien, Jean-Philippe. Bravo. Un bon point.
C'était lui, tout à fait.
Eh bien, c'est l'heure de dire au revoir à tout le monde, aux auditeurs, à Mathieu.
Merci.
Merci de votre invitation.
Merci Jean-Philippe.
À bientôt.
Merci Mathieu.
Et au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Poker menteur. Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker menteur. L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.